RFI, grand reportage, Jean-Baptiste Le Tondeur.
Grand reportage qui nous conduit aujourd'hui en Israël et nous ramène au 14 mai 1948, il y a donc 70 ans jour pour jour. Ce jour-là, dans la galerie principale du musée de Tel Aviv, David Ben-Gourion lisait la déclaration d'indépendance d'Israël quelques heures tout juste avant la fin du mandat britannique. À l'occasion de cet anniversaire, notre correspondant à Jérusalem a rencontré quatre acteurs de l'histoire d'Israël, quatre personnalités qui ont concouru à établir le pays. Quels sont leurs souvenirs? Quel regard portent-elles sur le pays 70 ans après sa création? Israël a 70 ans, parole de bâtisseur, c'est un grand reportage de Guilhem Delteil.
Le 14 mai 1948, Tzvi Mazel avait 9 ans. Il habitait alors dans la banlieue sud de Tel Aviv. Il garde un souvenir d'enfant, mais un souvenir précis de ce jour-là, comme des suivants.
Tout d'abord, je me rappelle à la radio la déclaration d'indépendance. On descendait dans la rue pour danser. Mais en même temps, on recevait déjà des nouvelles des attaques arabes. C'est ça le problème. Mais à partir de 1947, avec les temps de partage que les Arabes ont rejeté, ils ont commencé à attaquer les Juifs partout. En fait, la guerre d'indépendance a commencé en novembre 1947, et pas en 15 mai 1948. Moi, j'étais 9 ans, 10 ans, je ne comprenais pas beaucoup, mais enfin, je sentais, je savais, qu'on nous attaquait, on avait peur, bien entendu. Et tout d'un coup, et les jours passent, et il y a eu des morts, beaucoup de morts. On a perdu, vous savez, 1% de notre population, 6 000 personnes sur 600 000. Et tout d'un coup, les nouvelles commencent à être formidables.
Les pays arabes refusaient le plan de partition. En remportant cette guerre, Israël a assuré sa survie, en tout cas sur le plan militaire. Mais les défis étaient encore nombreux, se souvient Colette Avital.
En 1950, alors que la population d'Israël s'était plus que doublée, c'est-à-dire 1948, 600 000 personnes, au bout d'un an et quelques, il y a 1 million d'immigrants qui arrivent en Israël. Il n'y a pas de quoi les nourrir, il n'y a vraiment pas où les loger. Et c'est un pays qui n'a pas d'argent. Et donc, c'était surtout la grande crise économique. Israël était sur le point de disparaître parce que il n'y avait vraiment pas d'argent pour payer l'électricité ou les denrées de base. Et c'est peut-être à cause de cela, pas seulement peut-être, c'est certainement à cause de cela, que malgré toute l'opposition qu'il y a eu dans ce pays, finalement, il y a eu des négociations qui ont été entamées avec l'Allemagne pour les dédommagements. Et c'est grâce à cet accord qui est passé en 1952, l'accord de Luxembourg, où l'Allemagne s'est engagée à payer une certaine somme globale à l'État d'Israël comme dédommagement. C'est grâce à cela qu'on a réussi à survivre.
Après la guerre d'indépendance, Israël a affronté à d'autres reprises ses voisins arabes. Ce fut le cas en juin 1967, la guerre des six jours au cours de laquelle Israël a rapidement pris le contrôle de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du Sinaï et d'une partie du plateau du Golan. Tzvi Mazel était alors réserviste. Il a été appelé dès la fin mai. Durant la guerre, il était à Jérusalem pour désamorcer les bombes qui n'avaient pas explosé.
On écoutait Nasser et il disait « On va détruire Israël, on va massacrer les Juifs ». Ça a fait écho dans tous les pays arabes. Et on savait que les divisions irakiennes allaient venir. La Syrie s'était préparée aussi. Et on avait peur. Même les dirigeants, quand vous lisez les mémoires de nos dirigeants, ils avaient peur. D'ailleurs, et je crois que Rabin, qui était à ce moment-là le commandant en chef de l'armée, n'était pas extrêmement sûr que l'armée de l'air allait réussir. Entre 67 et 48, il y a eu seulement 19 ans. De nouveau, nous sommes... Oui, les gens avaient peur. Écoutez, quand vous regardez la carte géographique, qui nous sommes et qui sont les Arabes autour de nous, on a peur.
Harry Avidor, lui, a combattu sur le front sud face aux forces égyptiennes. Arrivé de France un an et demi plus tôt, il faisait en 1967 son service militaire. Avec son unité, il a traversé la bande de Gaza, puis le Sinaï, jusqu'au bord du canal de Suez.
La guerre des six jours, c'était une opération, je dirais, des moins compliquées qu'on ait eues. Vous étiez dans une colonne, quelquefois elle était arrêtée par un bombardement ou par une opposition. Alors l'infanterie descendait... Il nous fallait prendre une colline ou une position. Et on repartait. Mais ça allait, en fin de compte, tellement vite que ça n'est pas comparable à toute l'histoire militaire depuis lors. Nous sommes arrivés au canal une journée avant le cessez-le-feu. Et là, je me souviens que les discussions ont commencé. On était d'accord pour penser que voilà, nous occupons désormais des territoires qu'on va pouvoir restituer contre un accord de paix. Et voilà, l'affaire est conclue. Et puis, je me souviens qu'il y avait un jeune de Jérusalem là qui m'a regardé. Il m'a dit, mais tu n'as rien compris. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas compris? Il m'a dit, tu es galoutique. Galoutique, c'est ton raisonnement est d'un juif de l'étranger. Oui. Pour lui, c'était la revanche de 48. Cette guerre, on n'avait pas totalement gagné. C'est-à-dire, on n'avait pas conquis Jérusalem à l'époque.
Durant les 29 premières années de son existence, Israël a été dirigé par le Parti travailliste. La droite a dû attendre 1977 avant de remporter des élections législatives, une alternance qu'attendait Dan Meridor, qui deviendra député du Likoud 7 ans plus tard.
C'était un rêve, c'était un espoir. Est-ce que moi, personnellement, je pensais que c'est possible? Oui. Mais est-ce que j'ai senti que ça sera la réalité? Je ne peux pas dire. Ce n'était pas un surpris total, parce qu'on a vu, si vous voyez maintenant le graphe des élections, vous voyez que nous avons augmenté notre pouvoir des élections aux autres. Je me souviens de cette soirée, une nuit, quand à la télé, on a dit « c'est le résultat ». C'était comme un rêve qui était réalisé, je me souviens ça.
Pour Dan Meridor, la plus grande réussite de Menachem Begin, le nouveau chef du gouvernement, a été le rapprochement avec l'Égypte. Le président égyptien Anwar el-Sadat est tout d'abord venu en Israël en novembre 1977.
Je me souviens être assis à mon appartement ici et regardant ça à la télévision, c'était comme le Messie est venu, que le Messie est venu. C'était là, on le voit. Et personnellement, vous savez, j'étais à l'armée israélienne, j'étais un officier de l'armée israélienne à Char. Et je me souviens, entre la guerre de Yom Kippour de 73 jusqu'à 77, à l'arrivée de Sadat, on avait cette peur qu'on aura encore une fois une guerre en toute France, les Syriens, les Égyptiens, le monde arabe, tout le monde arabe contre nous. Et dès ce jour-là, c'était fini. C'est un changement stratégique immense. On n'a pas cette peur de tout le monde arabe contre Israël.
Le traité de paix, lui, a été signé le 26 mars 1979. L'Égypte devenait le premier pays arabe à reconnaître Israël. En 1980, Tzvi Mazel a fait partie des premiers diplomates israéliens en poste au Caire.
C'était quelque chose d'inimaginable d'arriver au Caire. La plus grande capitale du monde arabe, avec toute son histoire magnifique, etc., etc., et que nous sommes en paix. C'était extraordinaire, c'était formidable. Et on pensait que, voilà, c'est un rêve qui se réalise. Et puis après, peut-être, il y aura d'autres pays, et il y aura la paix avec les Arabes partout, etc. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. La paix existe, la paix est très importante, mais elle est restée... ce qu'on appelle froide, puisqu'il n'y a pas une vraie interaction entre nous et les peuples égyptiens. Les intellectuels égyptiens, comme tous les intellectuels arabes, qui sont ou islamistes ou nationaux, opposent encore Israël. Alors ils sont d'accord pour une paix qui accepte l'existence d'Israël, comme un fait accompli, mais pas comme un pays légitime avec qui il faut nouer des relations, travailler ensemble et coopérer.
Jusqu'à ce jour, Israël n'a signé de traité qu'avec un seul autre pays arabe, la Jordanie, en octobre 1994. Au Proche-Orient, le pays reste isolé et la diplomatie israélienne s'est efforcée d'aller chercher du soutien un peu plus loin, se souvient Ari Avidor, ancien diplomate, ex-ambassadeur au Sénégal.
Il était important pour nous de trouver des interlocuteurs dans ces pays-là. C'était à l'époque, c'était la doctrine Ben-Gurion, de briser le cercle d'hostilité des pays arabes autour de nous. Et de trouver un second cercle de pays qui seraient nos amis. Alors ça incluait à l'époque, ce second cercle, ça incluait des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Éthiopie et les pays d'Afrique qui venaient d'accéder à l'indépendance.
Mais est-ce que le fait qu'un certain nombre de pays africains soient musulmans a quand même été une difficulté pour vous en tant que représentant de l'État d'Israël dans ces pays-là?
C'est une difficulté peut-être, mais qu'on a réussi à surmonter. Je me rappelle par exemple au Mali à l'époque, et ensuite des années plus tard, lorsque j'étais ambassadeur au Sénégal, avoir distribué des Corans. J'ai distribué des Corans dans des villages dans la région. Vous voulez tous avoir le Coran de Al-Quds, Jérusalem. En fait, il n'y a pas de Coran de Al-Quds, il est imprimé essentiellement en Égypte. Mais le fait qu'ils viennent de là, pour eux, ça avait une valeur extraordinaire. On sentait également que voilà, l'amitié avec ces pays africains pouvait servir de passerelle également vers le monde arabo-musulman.
Le 13 septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signent dans les jardins de la Maison-Blanche la déclaration de principe des accords d'Oslo.
Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix.
Monsieur le Président, thank you.
Les dirigeants israéliens et palestiniens échangent une poignée de main. L'espoir d'un accord de paix naît alors. Colette Avital était consul général d'Israël à New York. Le 13 septembre 1993, elle a assisté à la signature de cet accord à Washington.
Je me sens tout à fait privilégiée d'avoir été là-bas, d'avoir été présente, d'avoir eu la chance de travailler aussi bien avec Shimon Peres qu'avec Yitzhak Rabin. Bien sûr, ça a été un très grand moment d'émotion. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en écoutant, en essayant d'écouter à nouveau les discours qui avaient été prononcés, certainement le discours d'Yitzhak Rabin. Pour la première fois dans notre vie, on rencontrait des Palestiniens auxquels nous avions imputé pendant des années on croyait que c'était vraiment pas des êtres humains. Et pendant très longtemps, j'avais fait cette propagande contre les Palestiniens, contre la charte palestinienne, contre Arafat, qu'on voyait comme un monstre. Et d'un coup, on se retrouve devant des gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent. Je me souviens, et pas seulement à la Maison-Blanche, mais à un certain dîner chez l'ambassadeur du Maroc, j'étais assise à côté du représentant des Palestiniens aux Nations Unies, Nasser Akidoua. Quelqu'un pose une question et nous répondons tous les deux en même temps avec les mêmes mots et nous nous regardons et nous commençons à comprendre combien on se ressemble. Et ça a été vraiment un changement très profond dans ma vie.
2 ans plus tard, le Premier ministre Yitzhak Rabin était assassiné à Tel Aviv par un ultranationaliste israélien opposé aux accords de paix. Et depuis 25 ans, les différentes négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord final. Aujourd'hui, la solution à deux États qu'Oslo dessinait demeure une perspective lointaine, regrette Colette Avital, qui fut pendant 10 ans parlementaire travailliste.
À l'heure actuelle, il ne reste absolument rien. Il reste des accords qui semblent ne pas être très valables, mais qu'on n'a pas annulés. Il reste des accords surtout dans le domaine de la sécurité et de temps à autre, Abu Mazen menace d'annuler ceci aussi. Mais il reste, si vous voulez, pas mal de déceptions de côté et d'autre.
Cette solution, elle reste possible aujourd'hui ?
Elle devient de plus en plus difficile. Elle s'éloigne de nous au fur et à mesure qu'il y a des implantations. Mais je crois que c'est essentiel et je ne vois vraiment pas une autre solution. C'est-à-dire, il y a 2 autres possibilités. Soit on fait un État, alors c'est l'égalité entre tous les citoyens. Et donc, finalement, ce ne sera pas l'objectif du sionisme de créer un État juif. Ce sera un État binational où nous risquons de devenir une minorité. Ce n'est pas pour cela qu'on est venu ici. Ou bien, ce sera un État où il n'y aura pas d'égalité et où ce sera presque un état d'apartheid. Et donc, je crois que finalement, la seule solution, c'est la séparation, c'est vivre dignement dans 2 états.
Pour Colette Avital, un gouvernement de droite soutenant les colonies en Cisjordanie, ce que les Israéliens appellent les implantations en vue des Samaries, ne pourra obtenir la paix. Tout comme elle, Dan Meridor reconnaît l'importance de créer un État palestinien. Mais pour cet ancien ministre du Likoud, l'exécutif israélien n'est pas le seul responsable de l'impasse actuelle.
Moi, je pense que s'il y a un danger à Israël, c'est ce danger. Ce n'est pas un danger militaire. Ce n'est pas le pouvoir militaire des Palestiniens qui peut gagner la guerre contre nous, non. Mais c'est le fait que dès la guerre de 67, et nous contrôlons ce territoire de Judée-Samarie, laissons Gaza maintenant parce que c'est un, comme indépendant, mais, et c'est justifié parce que nous étions attaqués, mais c'est pas normal de continuer comme ça. Le problème ou la tragédie est que même, vous savez, moi, je ne suis pas avec M. Netanyahu maintenant, j'étais avec lui, j'étais dans le gouvernement avec lui, avant lui, avec lui dans l'Likoud. Je suis, je critique Netanyahu pour la politique à cette question, mais il faut le dire, être honnête, je pense que on a eu de premiers ministres qui étaient très colombes, comme Barak ou Olmert ou Peres ou Rabin, et eux aussi, on n'a pas réussi d'arriver à un accord de paix, même offrant les concessions les plus extrêmes.
Pour Tzvi Mazel, les Palestiniens portent même seuls la responsabilité de la persistance du conflit. Du plan de partage de la Palestine en 1947 au sommet de Camp David en 2000, ils ont systématiquement refusé toutes les offres, assure cet ancien diplomate. Mais si la question palestinienne demeure un enjeu, il n'en est pas moins fier du bilan du pays en 70 ans d'existence.
Nous avons assuré notre survie, il n'y a pas de doute, par la construction de l'État. Il fallait construire, et nous avons construit un État de zéro. Et pratiquement, il y a eu une présence religieuse, il y a eu quelques ici, quelques là, il y a eu tout le temps, etc. Mais il fallait créer un État. Je vois autour de moi, il y a beaucoup, il y a des droites et des gauches, ils se bagarrent, n'importe quoi. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est la construction, le retour de la construction d'un pays formidable, un pays extraordinaire, et qui a demandé la paix, et qui demande toujours la paix, et qu'on ne lui donne pas. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire?
De l'autre côté de l'échiquier politique, Colette Avital partage cette fierté. Mais cette ancienne candidate à la présidence du pays s'inquiète des divisions politiques, de la virulence des attaques portées contre la gauche, dit-elle, mais aussi des divisions au sein de la société israélienne.
D'avoir réussi à maintenir ce pays, à progresser, à avoir une vie culturelle tellement importante, une vie scientifique, une vie économique tellement importante, tout cela dans des conditions très difficiles et avec pas mal de guerres, je crois que c'est vraiment presque un miracle. Ce qui me préoccupe davantage, c'est le schisme qu'il y a à l'heure actuelle dans cette société israélienne, qui ne devrait plus exister si au début, il y avait les Russes qui parlaient contre les Roumains et les Roumains contre les Marocains. Et, si vous voulez, on ne vivait pas très bien les uns avec les autres. Aujourd'hui, vous avez toute une génération, et même davantage de gens, qui viennent de mariages mixtes. Et donc, ces gens-là, si vous leur posez la question « qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui ?», ils ne sont ni séfarades ni ashkénazes, ils sont tout simplement israéliens. Et ça ne devrait plus exister. Mais dans la vie politique, il y a ceux qui incitent à nouveau tous ces groupes les uns contre les autres. Et je crois que c'est ça ma préoccupation principale. J'aimerais voir une coexistence plus grande, une manière de comprendre les uns les autres et la richesse que chaque culture apporte à ce pays.
Israël a 70 ans, parole de bâtisseur, un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Eva Moschinski.